Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 3 novembre 1994.
Il est impossible qu'il ne soit pas. Donc, il est premier. Il n'y a rien avant lui. Ça, évidemment, ça demande une certaine connaissance de notre intelligence dans ce qu'elle a de plus radical. Mon intelligence se découvre à elle-même en touchant l'être. Jugement d'existence. Tant que mon intelligence n'a pas touché l'être, je demeure dans le devenir. Je n'ai pas distingué l'être du devenir. Oui, il faut bien voir que la philosophie grecque a mis du temps à découvrir cela. Et que Parménide a joué un rôle très important à ce point de vue-là. Parménide, Platon, Aristote. Et que, après Aristote, on est retombé dans la question en quoi l'être. Les stoïciens, ils n'ont pas eu l'acuité de l'intelligence suffisamment forte pour demeurer sur la crête, l'être, en comprenant que ce qui est comme tel n'est pas le devenir. Oui, c'est cela que la philosophie première doit nous faire saisir dans toute son acuité. Elle a dû revenir tout le temps, parce que nous sommes dans un monde matérialiste. Culture. Nous sommes dans un monde du devenir, l'évolution. L'évolution, c'est proclamer le primat du devenir, il ne faut pas l'oublier. Alors il y a deux primats devant lesquels nous nous trouvons, très très nettement, qui sont les deux pôles de notre culture, dite moderne. Le point de vue matérialiste, on s'en dégage plus facilement. Et le point de vue du libéralisme absolu, qui est l'évolution, on s'en dégage beaucoup plus difficilement. Parce que l'un touche la vie et l'autre touche la matière. Et ça, je crois qu'il faut arriver à dépister ces deux grands au devenir, c'est bien évident à cause des sensations. On est lié au monde physique. Alors, on est tous d'accord qu'on est lié au monde physique. Mais alors, on est lié ou dans l'ordre de l'exercice, ou dans l'ordre de la spécification. Or, la phénoménologie ne distingue plus exercice et spécification. Donc, la méthode phénoménologique de dépasser ce double conditionnement. Il faut arriver à découvrir quelque chose de plus radical dans ma vie intellectuelle, le chemin d'existence. C'est pour ça que j'insiste tellement. Parce que s'il n'y a pas une saisie de ce chemin d'existence, vous restez dans la phénoménologie, le vécu, la relecture intellectuelle. Grand danger, vous savez. Le psychologisme qui se veut métaphysique, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je dis bien, je ne dis pas la psychologie, le psychologisme, c'est la psychologie qui se veut absolue, qui veut tout traiter. Quand vous êtes devant certains psychologues, ils vous disent que la psychologie joue partout. Mais non, la psychologie ne sait pas ce que c'est que l'être en tant qu'être. La psychologie ne sait pas ce que c'est que l'amour en tant qu'amour. Et vous restez dans le point de vue de en quoi est l'être et d'où est l'être. Ce sont les deux grandes interrogations que la métaphysique dépasse et que la psychologie finalité. Alors, vous comprenez que là, la très grosse difficulté, faut bien comprendre ça. Si je reste au niveau heideggerien, et ces cinq modalités doivent être présentes. une scala, une échelle, un escalier par où on monte dans le sanctuaire de l'être. Alors ça c'est mythique. Dans le sein des saints de l'être. C'est quand même intéressant ça. C'est quand même quelque chose d'extrêmement curieux et intéressant. Saisir la plus grande intériorité de l'être pour saisir sa plus grande transcendance. Bon, en philosophie du faturé, en philosophie du travail, il y a une finalité que tout le monde peut atteindre, c'est l'œuvre. Malraux dit que l'œuvre réaliser quelque chose que la causalité efficiente est parfaite. Bien, dépassement de la causalité efficiente. Parce que on sait qu'on n'a plus rien à ajouter. Que c'est terminé. Vous voyez, il y a le terme péras. Le terme, la fin. C'est très curieux. Péras, le terme, la fin. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui dépasse ce qu'on a fait. C'est ce dont on s'est servi pour réaliser l'œuvre. On s'est servi de la matière pour réaliser l'œuvre. Or, la matière, c'est ce qu'on n'a pas fait. première saisie de la finalité dans le Faturé. Et cette saisie de la finalité dans le Faturé, c'est l'œuvre accomplie. Oui, on dit l'œuvre accomplie. Et l'œuvre s'accomplit dans la matière dont on s'est servi. Pas en dehors. Dominer la matière, ça n'a pas d'importance. dit par rapport à la puissance obédientielle, vous prenez la place de l'Esprit Saint. Et celui qui est dompté s'en aperçoit, et sous l'action de l'Esprit Saint, il rejette celui qui le dompte. Mais c'est très intéressant de voir ce devenir, ce travail, effectus, et finis. matière grâce à la victoire de la forme sur la matière, qui fait qu'à ce moment-là, c'est plus un terme, c'est une fin. C'est quelque chose de très grand, ça. Et c'est la première découverte de la finalité. Tant que vous n'avez pas découvert ça, oui, la fin est d'ordre qualitatif. Le terme provient tout simplement de la matière. La matière reste victorieuse dans le terme, et la matière est dépassée dans la fin. Et je crois que c'est ça le propre de la fin. C'est la victoire de la forme au-delà du devenir. C'est très important de saisir ce premier moment de notre finalité sur le monde physique. Et vous voyez alors tout de suite que quand l'outil est très très parfait, je pense à ces outils extraordinaires d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Au fond, l'efficacité de l'outil est telle qu'il absorbe la finalité et qu'il n'y a plus qu'un terme. Il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a plus d'œuvre. C'est la différence d'un outil qui est toujours en harmonie avec l'homme. Parce que nos outils d'aujourd'hui, des outils très très perfectionnés, des techniques, ne sont plus en harmonie avec l'homme. Sont en harmonie avec des moteurs très puissants, une efficacité étonnante, dont l'homme est uniquement le surveillant. Il surveille, mais il ne domine pas du tout. Il surveille l'outil, il le dirige un tout petit peu. C'est l'outil qui fait tout. Alors, à ce moment-là, on est toujours en face de Péras, le terme. Il n'y a plus d'œuvre. La causalité efficiente est tellement puissante qu'elle absorbe tout. Et il n'y a plus de finis effectus. Je crois dans la pure technique, c'est ce qui arrive. C'est la différence entre la technique pure et l'art artisanal. Dans l'art artisanal, il y a un moment où l'artiste, artisan, dit ça y est. Et vous retrouveriez ça dans tous les arts. Et celui qui moissonne la boisson, le blé est mûr, il faut le couper. Et si vous tardez, tout de suite, il y a quelque chose qui ne se fait plus. Il y a un aspect qualitatif du moment précis où il faut moissonner. Et le vrai, l'artisan, qui est vraiment l'artisan dans son métier d'agriculteur, sait ça. Et celui qui ne l'est pas, ne sait pas. Et chaque fois, il rate. Il prend trop tard. C'est la même chose pour les fruits. On vous sert des fruits non mûrs, hein, en série. Ils mûrissent, on ne sait pas trop comment. On vous sert des pommes non mûres, on vous sert des fruits non mûrs, ou des fruits gâtés. C'est comme ça. Quand c'est en série. Tandis que celui qui sait faire mûrir un fruit, il vous sert au bon moment. Et il sait qu'il faut le manger à tel moment. Si vous ne le mangez pas à ce moment-là, il va gâter. On vous servira quand même. On mettra un peu de couleur dessus pour qu'il ne paraisse pas vous gâter. Mais on vous servira. Mais la différence entre la limite qui vient de la matière et la fin. Il faut essayer de saisir ça, c'est qualitatif, c'est le passage de la quantité à la qualité. Et la qualité, vous voyez, c'est par la qualité que je saisis la fin. C'est par la qualité que je vois la victoire de la forme sur la matière. Alors reprenez ça dans tous les domaines où l'artisan est artisan. Parce que c'est peut-être là où on le saisit le mieux. Mais dans l'art, l'art vraiment a l'artiste, un véritable artiste le saisit aussi. Et alors, celui qui vient conseiller l'artisan, vous pourriez peut-être ajouter l'intérêt. Pas du tout, c'est terminé. Puis renvoie promener de mauvaise humeur. L'artisan est impératif. Il sait ce que c'est que la fin. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Et on dira, on nous fout dans. Ça aurait et le repos. On n'a pas de gloire sans repos. Et un repos sans gloire n'est pas un vrai repos. C'est celui qui s'en épouse parce qu'il est terminé. J'ai terminé mon devoir. C'est un chef d'œuvre. Oh, pas du tout. C'était l'heure terminée. J'ai rendu ma copie parce que c'était infini. Dans la il est choisi. Choisi, il est choisi. Mais il s'impose. Alors voyez, vous retrouverez quelque chose d'analogue. Quelque chose, et ce serait intéressant à développer pour l'amour d'amitié. Quelque chose d'analogue entre Péras et Télos. Péras, le terme. Télos, la fin. Alors n'y a-t-il pas dans l'amour d'amitié quelque chose de semblable par rapport au secret? Parce que l'Eidos, dans l'amour d'amitié, c'est le secret. C'est la koinonia. La communication. Alors, il y a la victoire du secret. De la koinonia. C'est la forme. Liquide au sens le plus fort. La liquide, c'est... événements, toutes les difficultés, toutes les luttes qu'il y a pu avoir, les rivalités, il y a toujours des tas de luttes. C'est toujours en pleine bataille qu'on découvre un ami. Il y a eu des moments très durs, très très pénibles. Tout ça dégringole et il y a le repos auprès de l'ami. Entièrement, je dois toujours aller plus loin. Tandis que dans l'œuvre artistique, non, je m'arrête.